Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il y a exactement un siècle, en 1913, paraissait chez Armand Collin un manuel d'histoire promis à un grand avenir. L'histoire de France, de la Gaule à nos jours, d'Ernest Lavis. Franck Ferrand et son invité célèbrent aujourd'hui ce fringant centenaire. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Mon invité, c'est Dimitri Casali, un habitué de ce micro qui se bat depuis des années pour que l'on change la manière d'enseigner l'histoire en France et que l'on restaure ce qu'on appelle le roman national, ce qui ne fait évidemment pas plaisir à tout le monde. Sa réédition du manuel centenaire de Lavis, qu'il prolonge dans le même esprit jusqu'à notre époque, est en même temps, disons-le, un manifeste en faveur du réapprentissage de l'histoire de France.
Et n'oublions pas votre retour aux origines de la fin de l'émission. Nous vous rendez-vous, Franck. Il y sera également question de la rentrée.
Et oui, mais alors cette fois moins de la rentrée scolaire que de la rentrée politique et sociale, puisque nous évoquerons la retraite. De quand date cette notion et quel en a été le contenu au fil des générations? En attendant, je vous propose d'aller nous immiscer dans une classe de cette école républicaine qu'avait voulu Jules Ferry. Il y a 100 ans exactement qu'est née sous la plume de Péguy l'expression « hussard noir de la République » pour désigner cette armée d'instituteurs qui transforma la France.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Avant-hier, figurez-vous, j'étais à Avignon, vous savez, les auditeurs d'Europe 1 le savent, donc nous sommes restés un petit peu profiter de cette extraordinaire cité et de ses environs, et j'ai eu la chance de visiter un très joli site historique, peu connu, peu touristique, et d'y être accueilli avec quelques visiteurs par un guide local. Un petit monsieur retraité, très digne, dont je ne sais rien de précis pour tout vous dire, je suis trop discret. Simplement deux choses. La première, je l'ai deviné tout seul, ce monsieur était visiblement issu d'un milieu très simple, du peuple, comme on disait autrefois. La seconde, c'est qu'il s'exprime mais dans un français châtié, précis, savoureux, en un mot magnifique. Et je me suis dit, ça, ce sera l'introduction de mon émission de lundi, car voici le pur, voici le beau produit de l'école républicaine. Aujourd'hui, nous allons la redécouvrir, cette école. Nous laisserons de côté les collèges et les lycées pour cette fois, et nous allons nous intéresser au cycle primaire, si vous le voulez. Je vous propose de revenir sur ce modèle scolaire si efficace, si exemplaire, qui a été celui des années, on va dire, 1880-1960 environ. Elle était tellement forte et tellement structurante, cette école de la Belle Époque. C'est tout un univers. On pense, bien entendu, vous savez, le tableau noir, un peu lourd, un peu intimidant, les blouses, hein, bien entendu, les porte-plumes, les pupitres avec des trous pour les encriers, les cahiers à lignes pour la belle écriture ronde, avec pleins et déliés, s'il vous plaît, et puis les devises de moralité, chaque jour différente au tableau, les bons points, les prix d'honneur pour les bons élèves, le poil crépitant et le bonnet d'âne pour les moins bons. Nous allons essayer de retrouver toute cette atmosphère un petit peu stressante, disons-le, et en même temps si rassurante, dans la poussière de craie et l'odeur enivrante de la colle blanche. Tout le monde le sait plus ou moins, l'école naît laïque, gratuite et surtout obligatoire en France que depuis les années 1880. Ça, c'est tout l'héritage de Jules Ferry, surnommé le père de l'école publique. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'école avant ça, bien entendu. Dans l'ancienne France, sous l'ancien régime, il y avait ce qu'on appelait les petites écoles, qui étaient pour la plupart tenues par la Compagnie de Jésus, jusqu'à ce que les jésuites ne soient chassés, hein, au début des années 1760. Sous la Révolution, les plus enragés ont déjà l'idée de retirer à l'enseignement scolaire cette dimension religieuse. C'est à ce moment-là qu'on invente le terme d'instituteur pour remplacer le vieux terme de maître d'école, tout simplement. Mais sous le Directoire, la loi Daunou, on est là le 3 Brumaire en 4, maintient la liberté de l'enseignement tout en confiant à l'État le soin d'organiser un service d'instruction publique. Et c'est Napoléon qui va évidemment, j'allais dire comme d'habitude, créer le corps enseignant en tant que tel. Sous la monarchie de Juillet, le grand Guizot, j'allais dire notre père à tous, en tout cas l'un des grands historiens fondateurs de l'histoire de France, conçu comme un vaste récit, Guizot organise une véritable école d'État Et c'est la première fois, on est en 1833, au début du règne de Louis-Philippe, hein, c'est la première fois qu'on va donner des salaires aux instituteurs, des appointements, devrais-je dire. Cette école porte essentiellement sur les premières années, hein, c'est surtout une école primaire. On ouvre un peu partout dans le royaume des écoles de garçons. Cette école, je le précise, est encore tout à fait catholique. Il va falloir attendre 1867 pour qu'on ait enfin, si je puis dire, des institutrices. Ça, c'est une des grandes conquêtes de l'Empire libéral. Vous savez, cette fin de l'Empire de Napoléon III. N'oublions pas le comte Alfred de Falloux, hein, sous la Deuxième République, donc là on est en 49-50, ministre de l'Instruction publique, Falloux affirme l'emprise de l'Église sur l'école tout en renforçant la fonction d'instituteur, puisque à partir de ce moment-là, celui qu'on appelle instituteur n'a pas le droit d'exercer une autre profession, ils doivent se consacrer à ce métier. La loi de Falloux, c'est 15 mai 1850, cette loi donc qui complète la loi Guizot et qui va laisser une grande place à l'enseignement confessionnel. Elle rend obligatoire la création d'une école de filles dans toutes les communes de plus de 500 habitants. Ça, c'est un pas considérable. En 1871, Julie-Victoire Daubier, elle a 37 ans, obtient le droit de se présenter au baccalauréat. Elle est lyonnaise, cette jeune femme. Elle va donc être la première bachelière de l'histoire. 17 août 1871. Vous savez, à l'époque, il y avait un jury avec des jurés qui votaient pour savoir si vous aviez le bac. Alors, soit vous aviez des boules blanches, c'était l'avis favorable, les boules rouges, c'était l'abstention, et les boules noires, c'était l'avis défavorable. Eh bien, elle a totalisé 6 boules rouges, ça veut dire quand même que tous ces messieurs n'étaient pas très chauds pour voir une bachelière, 3 boules blanches et une seule boule noire, donc elle a eu son bac. Et d'ailleurs, elle sera la première licenciée S-lettres en 1872. À cette époque, disons-le, l'école est encore payante, facultative, souvent mal équipée, très empreinte donc d'un aspect confessionnel, religieux, et sous la tutelle de municipalités qui s'en occupent plus ou moins selon les maires et selon les conseils municipaux. En 1866, Jean Massé organise une éducation d'État, neutre, obligatoire, en rassemblant autour de l'école tout un réseau d'œuvres variées. Ça va créer un courant de sympathie, mais également il va développer l'enseignement des filles, il va aussi développer des cours pour les adultes. Enfin, on est en train de répandre le savoir, tout simplement. Il y a énormément de gens qui sont favorables. Il y a une pétition qui va circuler en 1867-68, donc on est à la fin du Second Empire. Il y a 1 million de gens qui réclament cette école généralisée. Chaque commune à l'époque est pourvue d'une école publique de garçons, et puis ben, pour les filles, il n'existe encore qu'une école privée qui généralement est confiée à des congréganistes. Pour les filles, l'école ne deviendra obligatoire qu'avec Duruy, dans les agglomérations donc de plus de 500 habitants, ce qui va faire dire à Jules Ferry qu'il y a encore à cette époque beaucoup à faire. En 1870, alors qu'il est le maire de Paris assiégé, hein, les Prussiens sont entrés, ils font le siège de Paris, Jules Ferry déclare à la salle Molière, je le cite, « Je me suis fait un serment entre toutes les nécessités du temps présent, entre tous les problèmes, d'en choisir un auquel je consacrerai tout ce que j'ai d'âme, de puissance morale et physique. » Et c'est l'éducation du peuple. À partir de là, on peut dire que c'est le début de cette grande aventure, de cette école publique, laïque et obligatoire. Ça va être le grand retour en force de nos hussards noirs, de nos maîtres d'école.
Monsieur le maître d'école, vous souvenez-vous encore de moi, d'un petit garçon qui fut, je crois, pas toujours sage. D'un petit garçon qui a bien grandi et qui maintenant souvent se dit c'était le bel âge, monsieur le maître d'école. Moi je me souviens encore de vous.
Et on a bien évidemment reconnu Bourville. Bonjour, monsieur le maître d'école.
Parlons de ce Jules Ferry et voyons un peu à qui nous avons affaire. Il est né en 1832 dans les Vosges, hein, à Saint-Dié. Il mourra au printemps 1893 à Paris. Donc vous voyez qu'il est mort finalement assez jeune, à 61 ans. J'imagine qu'une grande partie d'entre vous avait à l'esprit l'image, hein, le visage de Jules Ferry, cette face triste, avec ses énormes favoris qui lui dévoraient les joues. Hein. C'est un grand bourgeois, Jules Ferry, un homme assez peu communicatif. sportif du reste. Alain Savary, qui au moment de l'alternance en 1980 était ministre de l'Éducation nationale, dira « C'était un homme de liberté, il n'était pas un socialiste mais un républicain, un humaniste convaincu ». Ça, c'est vrai que le terme d'humaniste lui va parfaitement et comme un gant. Il était par ailleurs franc-maçon convaincu comme la quasi-totalité du personnel politique de cette époque. Sa femme était alsacienne, du reste elle la fera traiter de prussienne assez souvent, il y a eu beaucoup de malentendus à cette époque. Jules Ferry sera plusieurs fois ministre de l'instruction publique, comme on dit. À l'époque, on est ministre de l'instruction publique et des Beaux-Arts, d'ailleurs. Il sera aussi plusieurs fois président du Conseil, parce que à l'époque, ce n'est pas une tâche à temps plein. On est président du Conseil en même temps qu'on exerce un mandat ministériel. Il est rédacteur au journal Le Temps, où il va constamment condamner l'extrémisme. Disons que Jules Ferry est un homme modéré par essence, et il n'a pas grand-chose pour être populaire. Il sera d'ailleurs souvent haï, vilipendé, ridiculisé même. Il dira « J'ai souffert plus qu'il ne m'a plu de le montrer ». C'est un homme qui, dans tous les grands combats de son temps, ne va pas hésiter à affronter l'opinion publique. Notamment, il va combattre le général Boulanger, vous savez, cet ultra-nationaliste de la fin du 19e siècle. Par sa politique coloniale, il va être mal vu par la gauche, on l'appelle Ferry Disette, Ferry Tonquin. Et par sa politique scolaire, évidemment, il se heurte à toute une partie de la droite. Le 9 août 1879, ça veut dire que la République n'est pas installée depuis très longtemps, parce que vous savez que pendant très longtemps, elle s'est cherchée, hein, cette Troisième République. Elle ne savait pas tellement si le régime allait basculer plutôt dans la monarchie ou plutôt du côté de la République. En août 1979, donc, il crée des écoles normales départementales dont l'objectif est de former toute une armée d'instituteurs. Et là, très vite, en 1881-1882, ce sont les grandes lois scolaires de Jules Ferry, avec la gratuité en 1881. Ça, c'est important, la gratuité, parce que jusqu'ici, vous aviez beaucoup de pères de famille qui disaient « Ah, mais moi, vous êtes bien gentil, mais j'ai pas les moyens d'envoyer mes enfants à l'école. » Eh bien, cet argument-là, il n'existe plus. Et c'est ce qui va faire repousser, c'est ce qui va faire reculer l'analphabétisme et l'illettrisme partout en France. Mars 1882, obligation de l'école, alors là ça change tout, et laïcité. Il y a un devoir nouveau, en quelque sorte, celui d'instruire les enfants dans la neutralité de l'école publique, indépendante vis-à-vis de toute confession religieuse. L'école, désormais, sera ouverte à toutes. D'ailleurs, dans un débat public au Sénat, Jules Ferry préfère le terme de neutre à celui de laïque. Il n'empêche, c'est bien le terme de laïque qui va être retenu par la loi. Alors, il faudrait citer ici le rôle de Paul Bert, mais je n'ai pas le temps d'entrer, évidemment, dans tous les détails. Paul Bert a collaboré à la création de l'école de la République. Lui était très attaché à la création d'écoles pour les filles, bien entendu. Et évidemment, il était sans doute moins ouvert que Jules Ferry sur le plan de la laïcité et des relations avec l'Église. La laïcité du personnel, notamment, entre dans la loi en octobre 1886 sous son influence. Cette loi, cette laïcité, restera la charte de l'enseignement primaire. On a envie de dire à jamais, mais particulièrement pour cette école qui nous intéresse aujourd'hui dans le détail de laquelle nous allons entrer, cette école d'avant 1914. On est à une époque où le parcours scolaire est beaucoup plus court, mais beaucoup plus intense qu'aujourd'hui, et où il doit être sanctionné par un diplôme. Ce diplôme, ce sera évidemment le certificat d'études. Nous y revenons dans un instant.
Europe 1, 14h, 15h.
Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
On écoutait Gaufret avec Adieu, Monsieur le Professeur. Au cœur de l'histoire aujourd'hui, Franck, les USR Noirs de la République, c'est la suite de votre récit.
Nous saluons Hugo Frey très chaleureusement. Je sais qu'il écoute très souvent cette émission. Alors, le certificat d'études est donc institué par la loi de mars 1882. Alors, en 82, il y a 91 000 diplômes, vous voyez, mais ça va vite se développer. 175 000 titulaires du certif en 1892. Et puis, alors après, de 80 à 1907, il y aura quand même 4 700 000 Français qui vont le recevoir, ce certificat d'études. À partir des années 20, ce seront 170 000 lauréats chaque année. Dans les années 300 000. Le record ne sera atteint qu'en 1962 avec 473 000. Là, on est dans la génération, évidemment, du baby-boom. On multiplie les écoles à la fin du 19e siècle. On en construit beaucoup, hein, partout. Vous savez, vous connaissez ce petit poème de Jean Sicard qui disait « Alors la muse de l'histoire vit surgir d'un coup par milliers, tout blanc sur le vieux territoire, des palais pour les écoliers. » Et il faut imaginer toutes ces classes, hein, qui se ressemblent un peu partout avec les grandes cartes de géographie Vidal-Lablache et puis au-dessus de la chaire du professeur, le buste de la République, bien entendu. Dans les campagnes, il faut parfois aux élèves parcourir plusieurs kilomètres à pied pour venir à l'école. La fréquentation est un tout petit peu irrégulière encore, il faut le dire. Vous imaginez que l'hiver, ça veut dire que ces enfants doivent partir dans le froid, dans la nuit, pour rentrer encore dans la nuit. Avant de commencer la classe, on allume le poêle, vous savez. C'est dur le métier d'écolier, si je puis dire, à l'époque. Et c'est dur le métier de maître d'école ou de maîtresse d'école, évidemment. Le repas de midi était généralement formé de tartines qu'on mangeait dans le couloir de l'école, le plus près possible du poêle, justement. Alors on avait les mêmes, je vous ai parlé du buste de Marianne, il y avait donc toutes ces cartes de France essentiellement, mais pas uniquement. Et puis il y avait la Déclaration des droits de l'homme qui était exposée dans les classes, on apprenait les articles par cœur. Il y avait toute cette dimension instruction civique qu'avait voulu Jules Ferry et qui est très importante pour lui. On peut parler, du point de vue des instituteurs, d'un dévouement extraordinaire. Chacun va mettre un point d'honneur à arracher les meilleurs résultats du canton rural, de l'arrondissement urbain. Vous savez, on essaie d'en faire le plus possible, on ajoute des heures d'études, des leçons particulières gratuites. Il y a pas mal de larmes et de grincements de dents dans tout ça, bien entendu. C'est quand je vous dis que le métier d'élève est difficile, c'est vrai qu'à cette époque-là, être écolier n'est pas toujours très agréable. L'instituteur est en général d'origine modeste, il aime cette tâche qu'on lui a confiée, il est très attaché au régime à qui il doit tout, et bien entendu la plupart sont d'ardents patriotes parce que on est dans cette époque de revanche attendue contre la Prusse devenue l'Allemagne. On peut dire que l'instituteur était dans la plupart des communes un apôtre convaincu du progrès, il faut l'imaginer, mettant toujours en avant la science, la raison, la rationalité, souvent un anticlérical, hein. Vous savez, vous avez le curé d'un côté, l'instituteur de l'autre, évidemment, et puis parfois pour faire le lien entre les deux, des notaires et des pharmaciens, les libéraux du village. On dit que les maîtres d'école prussiens ont largement contribué à la victoire de 1870, et bien on peut dire aussi que les instituteurs français ne seront pas étrangers à la victoire française de 1918. Du reste, ils y ont contribué à titre personnel, puisque sur 35 000 combattants mobilisés, il y a eu presque 8 500 instituteurs qui sont morts. Alors voilà ce fameux témoignage de Charles Péguy, dont je vous parlais au début de cette émission, et que j'ai cité in extenso sur mon site, sur francferrand.com, vous aurez le texte entier. Voilà ce que disait Péguy en 1913. « Nos jeunes maîtres étaient beaux comme les hussards noirs, sveltes, sévères, sanglés, sérieux et un peu tremblants de leur précoce, de leur soudaine omnipotence. Un long pantalon noir, mais je pense avec un liseré violet. Le violet n'est pas seulement la couleur des évêques, il est aussi la couleur de l'enseignement primaire. » Un gilet noir, une longue redingote noire, bien droite, bien tombante, mais deux croisements de palmes violettes au revers. Cet uniforme civil était une sorte d'uniforme militaire, encore plus sévère, encore plus militaire, étant un uniforme civique. Cette dimension civique est absolument essentielle dans l'esprit de Jules Ferry, bien entendu. Et vous savez que Jules Ferry, presque à chaque rentrée scolaire, va adresser une lettre aux instituteurs. « Je ne veux pas laisser commencer cette année scolaire sans vous adresser personnellement quelques recommandations », disait-il. Et alors à ce moment-là, c'était des recommandations qui portaient essentiellement sur l'éducation morale et l'instruction civique. Il s'agissait, qu'on le veuille ou non, de créer avant tout de bons citoyens. Je vous cite un exemple, un extrait de la lettre de Jules Ferry aux instituteurs en 1898. Il écrit, parmi d'autres phrases bien senties, vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes, vous, les responsables de la patrie. Vous imaginez la responsabilité, hein, qu'il leur colle sur le dos. En 1884, dites-vous quand même que plus de la moitié des instituteurs gagnent moins de 100 francs par mois, ce qui est vraiment pas beaucoup, et les autres ont tous un salaire inférieur à ceux qui pourtant sont très bas de la plupart des petits fonctionnaires. Le problème qu'aura Jules Ferry, et c'est une des raisons aussi de son impopularité, c'est que entre les grands principes et la bonne volonté qu'il a constamment manifestée et inscrite dans la loi, et les budgets très en retard et très difficiles, évidemment, il y avait une marge. La politique scolaire qui est conduite entre 1879 et 1885 coûte très cher. Le budget annuel de l'instruction publique doit faire face à une augmentation considérable du nombre d'écoles, je vous dis qu'on en construit partout, et puis bien sûr du nombre d'enseignants. Pour vous donner un exemple, le budget de l'instruction publique passe de 53 millions de francs en 1878 à 133 millions dès 1885. Mais c'est à ce prix, dit Jules Ferry, que nous allons créer un grand État fort uni, composé de citoyens responsables. Je vous propose d'écouter un extrait d'un téléfilm de Jacques Rouffiot qui s'appelait justement Jules Ferry. C'était en 1992.
La République. Vous n'avez que ce mot à la bouche, monsieur Ferry. Mais elle fera quoi pour nous, ici, au Thiot, votre République?
La République, c'est la propriété de votre terre, la paix, le calme. Pour vos enfants, fini l'usine des 8 ans. Ils iront à l'école, ils apprendront à lire.
Ça leur servira à quoi de lire?
Ils seront plus instructionnés que nous.
À devenir instituteurs, postiers, médecins peut-être. Et puis... ils pourront lire les journaux, on ne pourra plus leur faire tout gober, ils seront enfin de vrais citoyens.
Eh oui, de vrais citoyens, c'est toute la méritocratie républicaine, vous savez, alors qu'il va fonctionner pour une partie, il faut le dire, très minoritaire des élèves, hein, bien entendu. La mobilité sociale s'accroît à cette époque, mais dans des proportions qui sont quand même modestes. Pour l'immense majorité des élèves, ce qu'on vient chercher à l'école, c'est un bagage pour la vie. Et après le certificat, il ne s'agit pas de continuer forcément des études, il s'agit d'entrer dans la vie, mais en essayant d'en savoir le plus possible sur bien des sujets. Et puis on va compléter ça par des lectures. Ça, c'est tout l'aspect, j'ai envie de dire, c'est la face cachée de cette école communale, hein, de cette communale, comme on l'appelait. C'est qu'elle va amener chez les élèves le goût de la lecture. Et que peu à peu, on va voir un certain nombre de titres devenir de véritables best-sellers de l'époque. Je pense à l'ouvrage écrit par Raphaël Perrier qui s'appelait L'école du citoyen, par exemple. Hein. Le but est de faire en quelque sorte de prolonger l'école par des lectures instructives en compagnie, en particulier. Alors évidemment, ces lectures instructives, elles sont aussi orientées dans ce but de la revanche, hein, dans ce but d'une plus grande France, en quelque sorte, il faut le dire, ça aussi. Le grand manuel de lecture de l'époque, ce sera bien sûr Le Tour de la France par deux enfants, un manuel de lecture scolaire d'Augustine Fouillet écrit sous le pseudonyme de G. Bruno. Ce manuel décrit à travers la France tout le périple de deux petits Lorrains de Falsbourg, André et Julien Volden, qui donc vont circuler à travers la France. Dites-vous qu'entre 1800... Et alors, à mesure qu'ils découvrent les villes, ils découvrent les métiers, les savoirs, les traditions, enfin c'est vraiment très instructif à tout point de vue. Entre 1877 et 1914, ce sont quelques 400 éditions de ce livre qui vont paraître avec quelques 6 millions d'exemplaires vendus. Cette école que nous venons de décrire à grands traits était malgré ses défauts bien adaptée à son temps. Elle donnait un enseignement solide, charpenté, qui avait une âme qui était dispensée par des maîtres qui avaient véritablement foi dans leur mission, même si c'était parfois au prix de quelques mythes. C'est vrai qu'on nous apprenait parfois à l'école des choses un peu étranges.
Toute jeune France Gall à l'époque, hein, c'était sacré Charlemagne.
Alors évidemment, vous me permettrez d'accorder un intérêt tout particulier à l'enseignement de l'histoire dans cette affaire. Voici ce qu'écrit Dimitri Casali dans l'introduction de sa version complète et actualisée du Petit Lavis. Une place demeure pour une histoire rigoureuse mais accessible, dit-il. Une histoire qui s'intéresse encore aux grands personnages, aux événements et aux hommes. C'est une histoire fondée sur le récit, le plaisir de la découverte et de la lecture. En ajoutant la radio, ce serait exactement le programme d'Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
C'est demain la rentrée, Franck, oui. Et nous avons une émission, on peut le dire, plutôt scolaire aujourd'hui.
Oui, une rentrée, vous imaginez, qui concerne 12 200 000 élèves demain et 842 000 enseignants avec la création de 7 000 nouveaux postes. Là, il y a pas mal de nouveautés cette année sur les rythmes scolaires, la lutte contre l'échec scolaire, etc. On va pas entrer, nous, aujourd'hui, dans ces histoires-là, puisque nous faisons une émission d'histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que l'exemple de cette école de la République demeure et qu'il est en quelque sorte à l'esprit de tous ceux qui ont actuellement encore tous ceux qui ont l'ambition de faire évoluer l'école. Bonjour Dimitri Casali.
Bonjour Franck.
Cette école, vous l'aimez, vous, et vous la faites vibrer, et vous publiez sur elle.
Il faut dire que l'école de la République française fut un modèle qui fut copié dans le monde entier. Et je pèse bien mes mots, puisque même au Japon, il y a eu des études sur l'école républicaine en France. Et qui l'a fondée? Donc vous l'avez dit, Jules Ferry, bien sûr, mais aussi des maîtres à penser tels que Ernest Lavis, le grand historien de la Troisième République, qui a écrit ce fameux manuel Petit Lavis, qui a formé des générations et des générations de petits Français et qui leur a inculqué cet amour de la France et qui leur a expliqué l'histoire de leurs ancêtres.
Alors ce manuel, je l'ai entre les mains, hein, publié par Armand Collin, publié, republié, 1913, c'est le deuxième grand manuel de Lavis, et puis qui sera republié au tout début de la guerre, en 40.
Oui, à des millions et des millions d'exemplaires, jusque dans les années 50, fin 50, c'est le manuel en fait de nos grands-pères et de nos arrière-grands-pères, et il n'y a qu'à interroger nos grands anciens et vous verrez le niveau de connaissance de nos grands-pères et de
mais
nos
c'est
grands-parents.
Ça qui est incroyable, parce que si j'ai bien compris, dites-moi si j'ai bien compris Dimitri, mais c'est un manuel qui est destiné aux classes primaires,
mais déjà. Alors, bon, j'ai eu moi l'honneur de le manuel s'arrêtait en 1939, hein. Armand Collin m'a proposé de faire la suite, j'ai fait 1939-2012, et c'est vrai que ce manuel était d'une clarté, d'une richesse, était équilibré et surtout expliqué correctement toutes 2000 ans d'histoire, comme si un lien charnel reliait tous les Français entre eux et leur donnait envie de continuer ce lien. C'est-à-dire, il fallait avant tout former des bons citoyens, fiers de leur pays, en leur expliquant ce qu'il avait fallu de sang, de sueur et de larmes pour créer la France. Et ensuite,
à partir de toutes ces origines complexes, évidemment. Hein.
Et le devoir de ces hussards noirs de la République était avant tout de faire aimer leur pays aux petits élèves et surtout de leur donner le sens des devoirs et le sens de la citoyenneté.
L'exergue du livre résume l'ensemble de la démarche. L'histoire ne s'apprend pas par cœur, elle s'apprend par le cœur.
Oui, bien sûr, parce que Lavis, et malheureusement, on le traite de chantre du roman national. Alors peut-être qu'effectivement, c'était un roman national puisqu'il était pétri de récits et d'anecdotes. En ce sens, c'est vrai. Mais nous sommes passés d'un roman national à un roman noir de l'histoire de France. Ouvrez les manuels d'aujourd'hui et vous verrez la différence. Alors que là, Lavis fait appel au sentiment, à l'émotion, c'est-à-dire que cette histoire, il s'agit de chair et de sang. C'est comme il dit, il s'agit de la chair de notre chair et du sang de notre sang. C'est-à-dire que quand il fait parler Jeanne d'Arc, par exemple, il dit Jeanne d'Arc a redonné courage à Charles VII parce que cette petite paysanne avait compris que la France était un vieux pays et elle lui a parlé de Saint-Louis et de Charlemagne parce que cette fille du peuple savait que la France avait été grande. C'est magnifique. Voilà, c'est comme ça qu'on donne. Et ensuite, il donne des exemples. Moi-même, quand je parle du maréchal Pétain, j'ai expliqué qu'il avait 86 ans quand il prend quand il est nommé chef de l'État français. Et que 86 ans, c'est un naufrage, comme a dit.
La vieillesse, c'est un grand naufrage.
La vieillesse est un naufrage.
À ce propos, du reste.
Voilà.
Il faut dire aussi que si la vie s'appuie sur un certain nombre d'émotions et d'expressions fortes, il n'oublie pas l'image qui joue un rôle important dans le manuel.
Bien sûr, il avait compris qu'une image vaut mille mots. Et ses gravures, puisqu'il y a plus de 185 gravures dans cet ouvrage, et nous avons continué avec l'illustrateur Olivier Nadel à faire vraiment parler les symboles de cette histoire de France, c'est à partir des images qu'on frappe l'inconscient des élèves. Et c'est vrai que quand on voit voilà, la croix gammée déchirée par des soldats alliés ou alors le général de Gaulle le jour du 18 juin. On est pris, on est pétri par le sens de l'histoire. L'histoire de France, je regrette de le dire, a été fait par les hommes, et c'est une histoire de sang, de sueur et de larmes, et de chair et d'os. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire oublier, il ne s'agit pas de grammaire ou de mathématiques, il s'agit d'histoire. Et si les pédagogues d'aujourd'hui, de l'éducation nationale, du ministère de Vincent Peillon, avaient pas oublié cette première leçon, il n'y aurait pas une répulsion envers l'histoire, comme on le sent parmi les jeunes aujourd'hui.
En tout cas, il y a sans doute, pour beaucoup de jeunes, une situation d'interrogation. Moi, je les sens quand je me promène un peu, quand je vais comme c'était le cas vendredi dernier, là, quand on rencontre le public, je sens que les plus jeunes sont assez déroutés par la façon dont l'histoire leur est enseignée, sans doute. C'est-à-dire que certains s'y intéressent, mais fondamentalement, on leur parle de notions, on leur parle de concepts, etc., mais on ne leur raconte évidemment plus une histoire. Ça, c'est incontestable. C'est cette école d'autrefois, elle était quand même fondée avant tout sur le récit, hein, ça faut le dire. Alors, un récit qui était parfois un peu rude, qui était souvent assez faux, il faut avoir l'honnêteté.
Alors,
le
pour
dire.
Les Gaulois en particulier, bah, oui, heureusement que la science historique a fait des progrès depuis.
Et puis, était aussi, je pense à cette citation de l'inspecteur général Gressot qui disait « Il ne venait à personne l'idée de nous expliquer quoi que ce soit. On apprenait, on récitait, donc c'était quand même la grande époque du par cœur. Et puis un jour, et ça il ne faut pas l'oublier, et puis un jour la lumière se levait sur les mots. C'est-à-dire qu'on découvrait parfois avec un 2 ou 5 ans de retard le sens de ce qu'on avait d'abord appris par cœur. » C'est assez étrange comme méthode, mais peut-être que c'est une bonne méthode aussi.
C'était une méthode efficace, particulièrement claire et limpide. Pour les enfants, on oublie qu'on s'adresse à des enfants de 8, 9, 10 ans. Et quand la vie sera comptée, par exemple, la conquête coloniale avec la bataille de Mazagran pour l'Algérie, c'est des combats où 123 fantassins français ont résisté à 4000 cavaliers arabes, ou alors Pierre Savournien de Brazza et sa conquête du Congo sans verser une seule goutte de sang et qui libérait les esclaves. Il y a une image, une petite gravure où on voit justement Pierre Savournien de Brazza hisser le drapeau français dans la jungle et faire racheter des esclaves, puisqu'il faut rappeler qu'à l'époque, un Africain sur quatre était esclave d'un autre Africain, et il leur disait « Touche ce poteau où était hissé le drapeau français et tu seras libre ».
Alors justement, quelles étaient les arrière-pensées de cette histoire-là? Quel était tout le non-dit qui se cachait derrière les images et derrière certaines citations? C'est ce que nous allons voir avec vous, Dimitri Casali, dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Nous parlons aujourd'hui de la façon d'enseigner l'histoire de France avec vous, Franck Ferrand, et votre invité, Dimitri Casali, historien, spécialiste du Premier Empire, élève de Jean Tullard, directeur de collection des hors-séries à l'Express.
Alors je voudrais, Dimitri Casali, que nous revenions sur les différents aspects de ce qui était considéré, disons-le, comme la Bible de l'enseignement de l'histoire à cette époque, hein, puisque ce livre de la vie, si l'on en croit du moins Pierre Nora, spécialiste de nos lieux de mémoire, matériels et immatériels, ce livre de la vie, c'était l'évangile républicain, en quelque sorte. Il y a une trame au départ, c'est la chronologie, et ça c'est ce qu'on apprend par cœur, en quelque sorte, hein, ce sont les dates.
Lavis avait réussi à écrire l'histoire de France en faisant un tout cohérent. C'est-à-dire que de 2000 ans d'histoire défilaient en s'enchaînant d'une manière magistrale et était particulièrement parlante pour les enfants. Et il avait beaucoup réfléchi. Il faut rappeler, bon, en deux mots, qui était Lavis. Lavis, c'est, il vient
de... On va y venir après, justement. Mais donc, pour revoir comment ce livre est constitué, il y a d'abord une trame cohérente
chronologique, basée avant tout sur les grands personnages et les héros. Et surtout, il avait compris qu'il fallait réconcilier la France. Il était persuadé que la division des Français était à l'origine de nombreux échecs de notre pays.
Alors là, c'est donc la dimension idéologique du livre. Hein. C'est-à-dire que après la chronologie, on peut dire qu'il y a une certaine romantisation de l'histoire de France, c'est-à-dire qu'on raconte quelques belles histoires, mais ces histoires, on ne les choisit pas au hasard et on ne les raconte pas n'importe comment. Il y a, qu'on le veuille ou non, une intention chez l'auteur. Alors cette intention, c'est une intention d'abord effectivement de cohésion sociale.
Ouais, de cohésion et de réconciliation, puisque donc Ernest Lavis a vécu la défaite de 1870 comme une humiliation suprême, là, le grand malheur éternel, et il est parti en Allemagne étudier pourquoi l'Allemagne avait vaincu la France. Il est revenu avec cette conviction qu'il fallait réconcilier, gommer les divisions profondes à l'intérieur du pays, et il a créé ce manuel Lavis qui donnait le goût de l'histoire, bien sûr, et qui était surtout, qui pouvait être repris aussi bien dans les écoles libres catholiques que dans les écoles laïques publiques. C'est-à-dire que c'est un manuel extrêmement équilibré, contrairement aux manuels d'aujourd'hui qui sont à charge contre l'histoire de France. Eh ben, le manuel de Lavis faisait la part belle à la fois, effectivement, à la dimension chrétienne de la France et surtout à la dimension républicaine de la France.
Mais quand vous dites qu'aujourd'hui les manuels sont à charge, est-ce que tout simplement ils ne sont pas un peu plus critiques? Parce que ce qui frappe lorsqu'on lit Lavis, c'est qu'il n'y a pas de critique, justement. Il n'y a pas de recul. On est dans une belle histoire qui serait sans ombre. Ce qu'on apprend aux enfants d'aujourd'hui, et d'ailleurs, les manuels en question ne s'adressent pas spécialement aux classes primaires, mais à des enfants un petit peu plus âgés, c'est justement à douter, à comparer et à critiquer. Ça fait partie aussi de l'enseignement.
Bien sûr, tout à fait raison, parce que par exemple il a ses têtes noires, Louis XV pour Lavis c'est vraiment le souverain feignant et libidineux par excellence, alors qu'effectivement les dernières études scientifiques historiques ont montré que Louis XV n'était pas du tout ce souverain auquel on a cru, mais par-delà justement il a, même pour l'empereur Napoléon Ier, il dit bien qu'il y a deux faces en lui, il y a cette ascension absolument extraordinaire et puis après le côté sombre de l'empereur. Mais surtout, c'est par le récit, par cette volonté de donner le goût, effectivement, au début, il donne uniquement des bases, des repères fondamentaux. Et après, il appartiendra au collège, au secondaire, de construire brique par brique une critique raisonnée de l'histoire de France.
Et plus on monte, évidemment, plus on arrive à l'université, etc., et plus la part critique est importante. Mais là, l'ouvrage est destiné à un tout petit public, à des enfants qui ont quoi, 7, 8 ans à peu près ?
7, 8, 9 ans.
Donc il faut leur donner déjà les bases. Avant de les amener à la critique, il faut déjà les intéresser.
Les intéresser.
Au sujet,
en fait, hein, alors ça. Qu'aujourd'hui, on part, vous savez que par exemple, on étudie la Révolution française en donnant les courbes statistiques du prix du blé la veille de la Révolution. C'est totalement abstrait.
C'est pas passionnant pour les enfants.
Et l'école,
sûr.
Malheureusement, la grande école des annales historiques de Fernand Braudel et Marc Bloch vient maintenant empiéter aux primaires dans les petites classes, vous verrez justement des courbes statistiques, des faits sociologiques et économiques qui sont intéressants pour des universitaires mais qui n'ont pas leur place pour des 8, 9 et 10 ans. Ça, je suis formel. Ouvrez les manuels d'aujourd'hui de vos enfants.
Vous avez été enseignant, vous, donc
j'ai été enseignant en ZEP pendant 8 ans, en zone d'éducation prioritaire, et déjà à l'époque c'était déjà compliqué d'enseigner, mais maintenant je suis sidéré par ces manuels scolaires qui sont vraiment très mal faits.
Alors, toute la dimension idéologique dont je parlais culmine dans une volonté de créer des petits Français qui soient à la fois républicains, certes, qui s'entendent tous bien entre eux, certes, mais qui aient également une dimension, comment dirais-je, martiale, belliqueuse, offensive.
Oui, effectivement, nous sommes quand même à la veille du grand conflit mondial.
On est en 1913, hein, là.
Nous sommes en 1913, hein, la sortie officielle de notre livre, Lavis, et date de 1913. Et effectivement, il y a cette dimension de chanter avant tout aussi les gloires militaires de la France, hein. On parle dans un continuum de Vercingétorix à Saint-Louis jusqu'en passant par effectivement Louis XIV et Napoléon. Ce sont leurs victoires militaires qui sont quand même mises en exergue, contrairement aujourd'hui où cet aspect militaire est strictement gommé. Donc il fallait avant tout, Lavis était parti en Allemagne pour comprendre pourquoi on disait que l'Allemagne avait été vainqueur grâce à ses instituteurs. Et effectivement, il considère qu'un instituteur qui n'a pas donné le goût de la patrie et le goût de la citoyenneté à ses enfants n'a pas fait son job, n'a pas fait son travail. Et ça, aujourd'hui, on pourrait en prendre de la graine, parce que c'est un peu ce que j'ai mis en exergue.
En fait, il faut dire que cet Ernest Lavis, quand même, il savait de quoi il parlait. Il avait été le précepteur du prince impérial, du fils de Napoléon III, mais il avait rallié la République dès les débuts de la République. République, et il va vouloir créer une France qui soit un peu, en quelque sorte, une France de réconciliation, un peu dans le projet qu'avait Guizot, lui, sous la monarchie de Juillet, finalement.
Tout à fait, tout à fait. Il a vécu ce drame personnel. Il était engagé dans l'armée, il avait 29 ans, et il n'a pas compris comment ce grand pays, qui était la grande nation, comme on disait alors, hein, il faut voir, avait pu être éliminé en moins d'un an. Et donc, il est parti en Allemagne pendant 3 ans pour étudier. Il a écrit 3 livres, justement, sur Frédéric II de Prusse en particulier. Et il a compris que c'était l'école allemande qui lui donnait cette supériorité, cette cohésion et cet amour de la patrie. Et effectivement, il s'en est servi dans son récit.
Oui, et ça, on peut dire que ça n'en empiétait pas sur ses qualités d'historien, car la vis, qu'on l'apprécie ou non, bon, moi évidemment je l'ai beaucoup critiqué comme historien de Louis XIV, et il y a beaucoup à dire sur son Louis XIV, hein, du reste.
Certes.
Mais ça n'en était pas moins un adepte d'une véritable méthode historique.
Méthode historique. Quand il invente Marignan 1515, il invente parce que, bien sûr.
Enfin, il n'invente rien, parce que la bataille a bien eu lieu en 1515.
Mais c'est vrai que cette date.
Il crée le mythe, en tout cas.
Il crée le mythe comme date fondamentale de l'histoire de France. Voilà. Eh bien, il a particulièrement raison, parce que cette date a une grâce mémotechnique, recèle une grâce mémotechnique presque poétique. Marignan 1515, qui permettait aux petites enfant de 8 ans de dater le début de la Renaissance en France. Demandez aujourd'hui à un élève de 4e qui cite ou de 5e qui date le début de la Renaissance italienne en France. Vous verrez, c'est un flou artistique total. Alors que grâce à ces procédés mémotechniques, effectivement, Ernest Lavis y est arrivé.
Et on peut dire que toute cette école, parce que là on parle de Lavis, ça a eu un très gros succès, hein, le livre à l'époque.
À des millions, et de 1880 jusqu'en 1950, des millions d'exemplaires ont été vendus.
On vous souhaite la même fortune, Dimitri Casali.
Presque, peut-être même une centaine de millions, on peut dire.
Mais ce livre était une sorte de bréviaire.
Oui, l'évangile républicain, comme disait Pierre Nora.
Mais il y a d'autres, parce que ce serait quand même dommage de réduire Lavis à l'écriture de ces quelques manuels, hein, en 1880,
oui,
1913.
Sûr.
Il a quand même écrit tout autre chose aussi.
Oui, la grande histoire de France de Lavis en 9 volumes, qui est une étude magistrale. C'est quand même une histoire. Bon, on parlait des Gaulois, effectivement, de certains aspects qui ont été remis en cause par les progrès de la science, mais toute la partie contemporaine du 19e siècle et du début 20e est extrêmement rationnelle, équilibrée et forte et objective, surtout objective. On parlait, elle était vraiment pleine et déliée.
Alors vous, c'est le cas de le dire. Alors vous, Dimitri Casali, on vous confie une mission qui est incroyable. On vous dit, Lavis, le manuel de Lavis s'arrête en 1939, tel qu'il a été publié dans sa dernière édition, Chèrement Colin. On l'avait déjà prolongé, hein, d'ailleurs, à l'époque, il faut préciser.
Tout à fait.
Et vous allez continuer. Mais alors, ce qui est étrange, c'est que vous n'avez pas marqué la couture. On aurait pensé qu'il y ait au moins une page de garde pour dire, à partir d'ici, commence le récit de Dimitri Casali. Non, ça se suit dans la foulée, en fait. Hein.
Oui, Armand. Colin, et je dois remercier Caroline Leclerc, a eu cette idée de me confier la suite du Lavis, du grand Lavis, et j'étais extrêmement honoré
depuis 10 ans
que je me bats pour l'histoire, pour l'enseignement de l'histoire, mes détracteurs me traitent de chantre de l'histoire lavicienne. Et ben, je revendique, je persiste et je signe. Et effectivement, c'est par les hommes et par les grandes dates qu'on apprend l'histoire. Et justement, quand j'ai repris le fil en 1939, j'ai insisté sur certains détails en insistant sur le récit du général de Gaulle la veille du 18 juin, quand il prend ce petit avion à Bordeaux, sur l'aéroport de Bordeaux-Mérignac le 17 juin au matin, que ce petit avion possède tous les espoirs de la France libre et part vers Londres où il fait cet appel du 18 juin. Oui, il y a de la poésie dans ce texte et j'en suis fier.
Eh bien, cette poésie, elle est d'ailleurs aussi bien visuelle que littéraire, il faut le dire. Vous la trouvez quasiment à chaque page de cette histoire de France de la Gaule à nos jours. Une édition, vous l'aurez bien compris, augmentée par Dimitri Casali et qui permet, je pense qu'on peut recommander ce livre vraiment à tout public, là, vraiment, qui permet d'inscrire en quelque sorte les plus jeunes générations dans la tradition de toutes les précédentes. C'est ça aussi, hein, c'est c'est qu'il y a une dimension de transmission dans ce
qu'on fait. Voilà, il y a un lien charnel entre les différentes générations. Nous sommes nos ancêtres, c'est nous dans le passé, et nos descendants, ce sera nous dans l'avenir.
Merci beaucoup Dimitri Casali. Alors il y a énormément de réactions sur internet qui sont des réactions essentiellement positives, j'ai pas le temps de tout lire. Simplement c'est le certificat d'études qui fait le plus réagir nos auditeurs et nos auditrices sur Twitter notamment. Josiane nous dit: "Ah, le certificat d'études, j'en ai souvent entendu parler par ma grand-mère qui l'avait eu en 1901, on est exactement dans le cas de figure. Marguerite dit: "Moi aussi je l'ai, ce certificat, bien que né en 1974." Et elle ajoute: "Je me souviens de l'épreuve de chant, l'examinateur m'a mis 20 pour que j'arrête de chanter."
Dans un tout petit instant, Franck, notre nouveau rendez-vous, celui des 5 dernières minutes, et vous allez nous parler de la retraite.
Et oui, on va revenir sur les origines de cette notion de retraite dont on parle tellement pendant cette rentrée sociale cette fois.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
14h-15h, Franck Ferrand.
Et c'est l'heure de notre nouveau rendez-vous, celui qu'on a chaque fin d'émission. Franck, à présent, votre retour aux origines, vous nous parlez de la retraite
et
aujourd'hui.
Oui, les origines de la retraite en quelque sorte. Vous savez que on peut dire que c'est la grande réforme la plus délicate sans doute de cette rentrée sociale de septembre 2013. Eh bien, cette retraite, elle existe en vérité depuis très longtemps dans le secteur public. Et c'est ce qu'il faut bien distinguer. Je pense que pour comprendre d'où ça vient, cette notion de retraite, il faut bien comprendre que d'abord, ça ne concerne que les fonctionnaires pendant très longtemps. Alors, dès 1661, dès 1671, Louis XIV avait fait bâtir, vous savez, pour les anciens combattants, cet hôtel des Invalides, bien entendu. Et deux ans plus tard, Colbert institue une pension de retraite pour les marins. Cette idée de la retraite permettait de mieux recruter, de fidéliser les meilleurs marins militaires. On leur disait, ben, vous servirez un certain temps sur les bateaux de la Royale, et puis quand vous aurez fait votre temps, vous aurez une pension pour le restant de vos jours. Vous imaginez, c'était totalement incroyable à l'époque. La première loi sur les pensions militaires, elle date de 1831. On est sous Louis-Philippe. Hein. Mais déjà, il y avait un certain nombre de corps, des personnels très particuliers de l'État qui bénéficiaient de pensions. C'était le cas notamment des personnels de la Banque de France dès 1808, de la Comédie Française aussi par exemple. Mais vous voyez, au début, c'était vraiment, tout ça était au compte-gouttes. Et puis, en 1853, c'est la grande loi sur les pensions civiles des agents de l'État, donc des fonctionnaires. À partir de l'âge de 60 ans, à condition que les fonctionnaires en question aient servi pendant au moins 38 ans, eh bien, on leur versait donc cette pension. Et puis ensuite, on va même inventer la possibilité de reverser une partie de la pension, un tiers à l'époque, à la veuve, les fameuses pensions de réversion. Tout ça naît sous le Second Empire, hein, au milieu du 19e siècle. Ça ne s'étendra que tard à d'autres secteurs. Ce seront les métiers pénibles, bien entendu, qui vont avoir les premières vraies retraites. La loi sur le régime de retraite des mineurs, par exemple, c'est 1894. Celle pour les cheminots, c'est 1909, vous voyez. Et en 1928, on crée le régime de retraite des ouvriers de l'État. On est toujours dans le secteur, dans le vaste secteur public, même si c'est un secteur public productif. Faut pas oublier qu'à l'époque, hein, d'ailleurs, la retraite est à partir de 60 ans, on n'en profite pas très longtemps parce que l'espérance de vie n'a rien à voir avec aujourd'hui. Pour vous donner une idée, là je fais une parenthèse, en 1900, on comptait une centaine de centenaires dans toute la France. En 1950, il y en avait 200. En 1990, près de 4000. Et aujourd'hui, on est à près de 20 000. Et on prévoit qu'en 2050, il y aura 140 000 centenaires en France. Bon, vous voyez, donc ça change. Bon. Les retraites du secteur privé, elles vont arriver plus tard. 1850, alors là, c'était le tout début des caisses nationales de retraite vieillesse, mais c'était tout à fait personnel, c'était tout à fait volontaire, bien entendu. La loi sur les retraites ouvrières et paysannes, elle date de 1910, avec évidemment un développement des assurances sociales dans tout le cours des années 1930. L'allocation aux vieux travailleurs salariés, elle n'arrive que pendant l'occupation, c'est sous le régime de Vichy en 1941. On est encore dans un régime général extrêmement faible. Le système général de retraite par répartition, tel que nous le connaissons, il naîtra, vous le savez, à la Libération. C'est le ministre de la Sécurité sociale de l'époque, Alexandre Parodi, qui a été chargé de mettre en application tout ce programme très audacieux du Comité national de la Résistance. Mais ça, c'est une histoire déjà nettement plus récente et qui nous entraînerait nettement plus loin. Bonjour Elena Mornin.
Bonjour Franck. bonjour à tous. Alors aujourd'hui, avec les experts européens, on va un peu plus loin que la retraite. On va au-delà de la retraite. Nous allons parler des querelles d'héritiers.
Ah bon, je pensais que vous alliez parler des obsèques, mais vous allez encore plus loin.
Non, non, on va encore plus loin. Et justement, c'est un sujet en général qui passionne et qui déchire. Comment ça s'est passé près de chez vous? Ça nous intéresse, surtout comment vous avez pu surmonter ces querelles ou pas. Nous, on a des réponses avec les experts. On attend vos questions, vos témoignages. C'est le 39 21 34 centimes d'euros la minute ou sur europe1.fr, Franck.
Merci beaucoup, Elena Morna. Je rappelle donc le titre de l'ouvrage d'Ernest Lavis, revu et corrigé et augmenté par Dimitri Casali, l'histoire de France de la Gaule à nos jours. C'est chez, bien sûr, chez Armand Collin, qui est l'éditeur d'origine de ce beau manuel. Nous nous retrouvons demain, Céline.
Avec grand plaisir, Franck, à demain.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.